בסדר גמור, שלום לכולם, שלום לכולם. Je voudrais commencer notre étude de ce matin par une citation d'un des personnages que nous allons évoquer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voyager. Aujourd'hui, on va voyager. Nous sommes arrivés à la deuxième moitié du 19e siècle. Donc, nous allons nous balader entre les années 1850 et les années 1890. C'est notre période. Et dans cette période, nous allons voyager un petit peu dans, je vais pas dire toute l'Europe parce que ça va encore plus loin. On va aller depuis la Tunisie jusqu'à la Pologne en passant par la Bosnie, Israël et Bagdad. Donc voilà, on a tout un programme qui nous attend aujourd'hui. Et je voudrais commencer par une citation. La citation est, à mon avis, extrêmement révélatrice de la Torah du personnage que nous allons évoquer aujourd'hui, le premier d'entre eux. Lorsque l'homme naît, il apprend à parler. Lorsqu'il devient vieux, il apprend à se taire. Quel dommage que l'homme ait appris à parler avant qu'il n'ait appris à se taire. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là et faire une dissertation en 17 pages, simplement sur cette phrase-là. Alors les amis, on va parler d'un bonhomme qui a une histoire absolument atypique, une histoire unique et qui encore aujourd'hui, 200 ans plus tard, enfin ouais, presque 200 ans plus tard, est sujette à énormément de machlokot. Machlokot, par exemple, entre les élèves, les successeurs et les chercheurs et historiens. Pour certains, l'un des plus grands maîtres du judaïsme, pour les autres, quelqu'un qui a perdu la boule. Eh oui, on va jusque-là. Pour les uns, un homme qui avait la vérité et Kvod Hashem comme seul curseur de sa vie, pour les autres, quelqu'un qui avait du mal avec son propre kavod. Alors évidemment que si je décide d'en parler ici avec vous, c'est que je me range plutôt du côté des uns et pas des autres. Mais pour commencer notre étude et comprendre ce qui me lie au personnage, je suis obligé de revenir près de 10 ans en arrière. Il y a près de un peu plus de 10 ans, je crois même. J'ai pris l'avion. C'était une autre époque. J'ai pris l'avion et je suis arrivé à l'aéroport de Varsovie. Il était 10 heures du matin. Je devais recevoir un groupe de l'école de Pavillon sous bois, de l'Alliance de Pavillon sous bois. Mais ce groupe, le vol avait été décalé, ta ta ta. Bekitsour ne devait arriver finalement qu'à 10 heures du soir. Donc imaginez-vous, on est, voilà, je me retrouve à Varsovie et on a 12 heures à tuer. Deux options s'offrent à nous. Je dis nous parce que j'étais avec un autre guide qui était avec moi pour guider ce groupe-là pendant la semaine. Deux options s'offrent à nous. On peut aller à l'hôtel, Novotel de Varsovie, papa, papa, et demander nos chambres. On aurait peut-être dû attendre 1 heure et puis ensuite on aurait eu les chambres et se reposer toute la journée. Ou alors, on a décidé de mettre nos valises à la consigne de l'aéroport, d'aller louer une voiture et de partir sillonner les routes de Pologne, là où on n'a pas l'habitude d'aller avec nos groupes. Et on a commencé une journée très particulière, très remplie de kdoucha et de mémoire. On a été dans des endroits qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour l'anecdote, dans l'anecdote, on est arrivé à un moment donné dans une ville qui s'appelle Piersetna. Alors, ça ne vous dit peut-être rien, ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme dirait l'autre. Parce que Piersetna, c'est dans le monde de la chassidoute, alors c'est plus tard, c'est le XXe siècle déjà, mais c'est Rabbi Kalminus Kalman de Piersetna plus connu sous le nom Esh Kodesh, on en reparlera évidemment. Donc on arrive là-bas et on avait avec nous un petit livre qui parlait de l'histoire des Juifs de Pologne. Et on avait sur la ville de Piersetzna, quelques lignes, on avait l'adresse de là où était la synagogue. On arrive à cette adresse et il y a non pas une synagogue, mais une blanchisserie. Voilà, Marbessa, teinturier, ce que buanderie, vous appelez ça comme vous voulez. Bekitsour, on est extrêmement déçu, même si on savait à quoi s'attendre. On rentre dans le magasin, on essaye de communiquer avec la dame qui a un anglais inexistant et notre polonais est approximatif. Donc, on n'arrive pas vraiment à discuter avec elle. On sort un billet de 100 zloty, ça fait à peu près 100 shekels, et on lui demande est-ce qu'on peut aller se balader dans le magasin. On voit qu'il y a des escaliers qui mènent à un étage supérieur. Elle nous dit OK. Et on monte et on ne trouve absolument rien. Aucun signe de vie juive dans ce qui était la synagogue, le Beth Amidrash de la Chassidoute de Piersetzna. On est déçu, on est frustré, énervé. Il y a dans tout ce complexe plein de sachets de vêtements entreposés un peu partout. Et j'avoue que, avec un excès de frustration et de colère, je donne un coup de pied dans l'un des sachets de vêtements en disant, c'est tout ce qui reste. Et mon coup de pied va envoyer valser le sachet qui va laisser apparaître une poutre sur laquelle il y aura marqué Zeh Ashar Lahashem Tzadikim Yavo Uvo. Nous venions de découvrir la poutre originelle de l'entrée de la synagogue de Piersetzna. Et ça a lancé notre journée. On a été complètement retourné par ça. On a été encore se balader dans plusieurs endroits. Et il est 2 heures de l'après-midi, on n'a pas mangé, et on arrive dans une ville qui aujourd'hui est une ville moyenne en Pologne, mais que tu as vraiment l'impression que le temps s'est arrêté, tu as l'impression qu'ils ont découvert l'électricité il y a 2 jours, il y a deux villes et demie, il y a deux rues et demie dans la ville. Je veux parler de la ville de Kotsk. On savait là-bas, évidemment, la chassidoute de Kotsk, extraordinaire! Mais on savait qu'il n'y avait comme vestige que la maison du rabbi. Et elle était reconnaissable puisqu'elle était ronde. Bon, vu que de toute façon dans la ville il y a deux rues, on avait vite fait de la trouver. Et vu qu'on ne s'attendait à rien d'autre que de voir la maison, eh bien, on est sorti de notre voiture, on a commencé à se prendre en photo devant la maison. C'était le mois de mai, il faisait beau, il faisait chaud. Et à ce moment-là, on sort, on est en kippa, tzitzit, en train de se faire des petits selfies devant la maison de Kotsk, et sort de la maison un Polonais de 2 mètres sur 3, énorme, torse poil. Il nous regarde bizarrement, on le regarde, et il nous dit Jodowski, ça veut dire juif. Alors, tu aurais pu penser sale juif et on se serait mis directement en mode combat. Mais il n'avait pas l'air menaçant du haut de ses 2 mètres et demi. Il lui dit Jodowski, on lui dit Tag, oui. Et il nous dit ce mot, parce que lui aussi, hein, son anglais n'existe pas. Et il nous dit Tzadik, Tchadik. On se regarde et on lui dit oui. Et à ce moment-là, il rentre chez lui et il ressort au bout de 2 minutes avec un t-shirt et une casquette. Il sort de sa maison et il se place devant notre voiture et il nous dit venez. Mon copain se met au volant, il me dit tu te mets derrière lui. Et si jamais il fait un geste déplacé, tu le chopes par derrière. Et on commence à le suivre. Il nous fait sortir de la ville. Et au bout de 5 minutes de route, il nous dit de tourner à gauche dans une forêt. Les amis, je guide en Pologne depuis longtemps des histoires de Polonais qui ont emmené des Juifs dans des forêts. En général, ça se termine pas bien. Et donc, quand il nous dit de tourner dans la forêt, il y a mon copain qui me redit, eh, dans la forêt? L'autre guide, c'était Jonathan Rubinstein. Et donc, on se retrouve dans la forêt, il me dit vraiment, hein, s'il bouge, tu l'étrangles par derrière. On roule pendant quelques minutes dans la forêt, et à un moment donné, sans crier gare, au milieu de rien, le mec nous dit stop. Il sort de la voiture. Il marche 30 mètres dans la forêt où il n'y a pas de sentier, où il n'y a rien du tout. Et au milieu de cette forêt, tout d'un coup apparaît un grillage. Et de l'autre côté du grillage, une petite maison, un petit ohel, une petite sépulture. Le mec s'arrête, enlève sa casquette, la met sur son cœur et nous dit « Tchadik ». Il venait de nous conduire au tombeau de Rabbi Menachem Mendel de Kotzk. Et là, on était waouh! C'était un moment que je n'arriverai pas à vous décrire. Peut-être que c'était la journée qui avait passé, le fait qu'il était 2 heures, 2 heures et demie, qu'on n'avait pas mangé. Mais un moment d'élévation, on a prié Mincha là-bas. C'était absolument incroyable. On a finalement voulu donner son zloty aussi à ce monsieur. Il les a refusés parce qu'il a vu sur la banquette arrière de notre voiture une belle bouteille de vodka Zubrowska. Et il a préféré prendre la vodka au zloty. Et on s'est quittés bons amis. Mais Kitsour, les amis, nous venions à ce moment-là de découvrir la tombe du personnage que nous allons évoquer maintenant, Reb Menachem Mendel de Kotzk. Rabbi Menachem Mendel de Kotzk, avant son influence au niveau de la Chassidoute et de la Kabbalah, hein, il était ce qu'on appelle un mitnaged. C'est-à-dire qu'il était anti-Chassidoute, anti-Kabbalah. Et il a grandi dans la plus pure tradition des mitnagdim. Ce n'est que à l'âge de 15 ans qu'il va, au détour d'un voyage, rencontrer un personnage que nous avons déjà évoqué dans la Chassidoute, qui s'appelait le José de Lublin. À José Miloublin. Et sa rencontre avec le José va tout simplement le chambouler tant qu'il décide de rester chez le José, d'étudier chez lui et de devenir un de ses plus fervents élèves. À ce moment-là, Rabbi Menachem Mendel devient le maître de la chassidoute que l'on connaît. Un homme qui a une Torah qui est essentiellement béalpé. Il refuse d'écrire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que Dvarim shebealpeh iatarashai lirtovotam. Parce que les choses qui sont de la Torah orale, tu n'as pas le droit de les mettre par écrit. Agav, c'est une halakha. Le fait qu'aujourd'hui tous les rabbins écrivent leur divrei Torah, c'est sous l'impulsion d'un homme qui s'appelait Rabbi Yehuda Hanassi, qui a mis la Mishnah par écrit et qui a transgressé la Torah en faisant cela. Ne l'oublions pas. Rabbi Yehuda Hanassi nous avait dit, Et la sot l'Hashem, et feru toratecha. Que des fois, pour faire la volonté de Dieu, il faut transgresser la Torah. Et voyant que l'exil avait commencé et que le peuple juif était en train de se disperser, il a dit, il faut que je mette par écrit l'enseignement oral de la Torah. La halakha, donc la Mishnah. Mais si tous les rabbins, une fois que la porte était ouverte, eh ben, on suivit. Reb Menachem Mendel de Kotzk se refuse d'écrire sa Torah. Parce que, dans la vérité, les choses béalpées ne peuvent pas être mises par écrit. Pourquoi pas? Eh bien, nous enseigne Reb Menachem Mendel de Kotzk qu'à partir du moment où tu écris quelque chose, tu l'as limité. Tu l'as limité, bah, par le fait que tu l'as figé dans l'écriture. Je me souviens d'un des tout premiers cours qu'on avait reçu avec le Rav Yoel Ben Arosh. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce Rav. Il y a presque 20 ans. C'était un des tout premiers cours que j'avais avec lui. Et il nous avait montré comment, lorsqu'on écrit la lettre P, en hébreu, eh bien, se dévoile à l'intérieur la lettre bête. C'est-à-dire que si tu écris le pei, le blanc qui est formé par le noir du pei forme le bête. Et qu'en fait, les lettres hébraïques dévoilent en fait des secrets qui étaient dans le parchemin, mais qu'on ne voyait pas tant qu'il n'y avait pas le noir. Donc, bien sûr que lorsqu'on écrit quelque chose, ça dévoile quelque chose d'autre. Mais nous dit le rabbi de Kotzk, lorsque tu écris, ça peut-être que ça dévoile des choses, mais ça fige l'écriture. Évidemment, Meiral dit, Imlokotvim, on le salève, bien sûr, sauf que non. Parce que lorsqu'on n'écrit pas, eh bien cela nous oblige à demander au Rav ce qu'il voulait dire, si on veut comprendre. Et le fait qu'on a eu un contact panim el panim avec l'enseignant fait qu'on va forcément bien comprendre, puisqu'il va dire un truc, je vais dire, Rav, qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai pas compris. Et il va t'expliquer. Alors que si le Rav, il a écrit son bouquin, il l'a envoyé aux élèves, eh bien, l'élève, s'il ne comprend pas ce qu'il y a marqué, eh bien, il va écrire un commentaire du texte du rabbin en disant ce que lui, il a compris. Et il y a un autre qui va venir derrière, qui va écrire un commentaire du commentaire. Si bien qu'aujourd'hui, 2000 ans après l'écriture de la Mishnah, on a à peu près 100 000 livres dans le judaïsme qui viennent nous expliquer ce que voulait dire la Mishnah. Je sais que le jeu du téléphone arabe est très connu, mais en vrai, lorsque tu as une tradition qui ne s'est pas arrêtée et qui est vivante de génération en génération, il n'y a pas de raison de penser qu'on va mal comprendre. Le problème, c'est lorsque tu penses que la tradition va s'estomper parce que les gens partent, parce que les gens ne peuvent pas s'asseoir et étudier, parce qu'il y a des persécutions. Et c'est pour ça que les gens ont écrit. Donc, je ne dis pas qu'il faut arrêter d'écrire. Le Rav Yoel a sorti des livres, le Rav Cherki sort des livres, c'est pas la question. Le fait est que pour le Rabbi de Kotzk et sa volonté de rechercher tout le temps le émet absolu, eh bien lui il dit je peux pas écrire. Je garde une Torah qui est fondamentalement orale. Mais cette Torah orale ne peut marcher que s'il y a le lien entre le Rav et l'élève. Et c'est pour ça que pour lui, l'un des autres piliers, on a dit c'est le Emet, et l'autre c'est Kvod Hashem. Et Kvod Hashem pour lui passe par un maître et ses élèves. Et pas par deux maîtres et ses élèves. Pour le Rabbi de Kotzk, à un endroit donné et à un temps donné, il n'y a qu'un seul maître. Pour justement que la transmission puisse se faire de manière ordonnée, claire. Lorsque le maître mourra, eh bien, il désignera juste avant son successeur qui continuera à enseigner, comme Moshe l'a fait avec Yehoshua. Et c'est ce qui va amener une très, très grande dissension à l'intérieur de la chassidoute de Kotzk, lorsque le Rav Mordechai Yosef Leiner, un des élèves du Rabbi de Kotzk, va commencer à lui aussi se mettre à enseigner. Et ça va créer une véritable scission dans le monde de la Chassidoute, si bien que Rabbi Mordechai Yosef Leiner va partir de Kotzk pour aller créer la Chassidoute de Ischbitzer. Oui, je sais, c'est des noms à coucher dehors, mais on est en Pologne, malasot. Et cette scission va énormément faire souffrir le Rabbi de Kotzk, qui va s'enfermer pendant près de 20 ans. S'enfermer dans sa maison, ne recevant que des élèves triés sur le volet, et disant que sa Torah, eh bien, ne sera plus l'apanage de tout le monde, mais seulement de ses élèves en qui il a confiance pour continuer la transmission. Certains diront justement que c'est à ce moment-là qu'il a pété les plombs, d'autant plus que tout ceci a été précédé d'un ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un AVC. Il a fait un AVC le jour de Simchat Torah et il est resté pendant 9 mois incapable d'enseigner. Et une fois qu'il a recommencé à enseigner, c'est là qu'il s'est enfermé et qu'il a reçu que un nombre très très restreint d'élèves. C'est là que certains diront, oui, il a pété un plomb, il n'est jamais redevenu celui qu'il était, machin. Mais ses élèves disent que non, ça n'a rien changé entre avant et après. Le fait est que la Torah de Kotzk, c'est une Torah qui est imprégnée de cette Torah Takabala, mais qui n'est que dirigée vers Emet. Emet, 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 Vekvod Hashem. Alors, on a appris que la Kabbalah, c'est justement l'union des valeurs. Et le rabbi de Kotzk, en ne favorisant que le Emet, eh bien, il se coupe d'une grande partie de l'enseignement kabbalistique. Il le sait, mais il dira Emet me'eretz titzmach. C'est-à-dire que oui, là maintenant, l'enseignement de la Kabbalah, c'est l'unité des valeurs, mais viendra un temps où le Emet prendra bah, le pas sur tous les autres. Et c'est qu'en ce moment, c'est Olam Haba. Olam Haba, c'est Olam Shehu Kulo Emet. Donc en gros, le rabbi de Kotzk et sa Torah sont une Torah, c'est une Torah hein, tournée vers Olam Haba. Une Torah de vérité, d'introspection. Quelle différence entre l'unité des valeurs et le Emet? Dans notre monde, il y a une différence fondamentale, puisque dans notre monde, il y a, par exemple, le Chesed. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Le Chesed, c'est je fais ce qu'on me demande, je suis sympa, je donne. Mais des fois, la personne ne mérite pas que je lui donne. Et donc, c'est contraire au émettre de lui donner. Ce qui veut dire que dans notre monde, il peut y avoir des contradictions entre émettre et les autres valeurs. Tu as raison que l'Atid Lavo, il n'y a pas de contradiction entre émettre et le reste des valeurs, puisque tout s'élève et la vérité montre l'union de tout. Mais dans notre réalité, ce n'est pas encore le cas. Mais c'est là? OK. Hop là. Je vois qu'il y avait une question dans le chat, mais je n'arrive pas à la retrouver. Enfin, on verra après. On verra après. Top. Donc ça, c'était la Pologne, Erev Menachem Mendel de Kotzk. De là, nous allons partir. Nous allons partir ailleurs, dans une autre partie d'Europe. Nous nous envolons, si on peut dire, et nous nous envolons en Bosnie. Oui, messieurs, dames. Nous nous envolons en Bosnie, qui est à l'époque, donc de la deuxième moitié du 19e siècle, qui est sous contrôle de l'Empire ottoman. Et nous allons parler d'un homme extraordinaire. Alors, vous le connaissez. Vous le connaissez, alors certainement pas par son nom, c'est sûr que non. Mais vous connaissez l'un de ses écrits les plus connus, puisqu'il est plus ou moins, j'allais dire, imprimé dans tous les sidourim séfarades. Plus ou moins dans tous les sidourim séfarades, qu'ils soient Alpia Kabbalah ou pas Alpia Kabbalah, on va retrouver cet écrit-là. Je parle de quoi? Vous vous rappelez de la Menorah Lamnatzeach? Voilà. Le fait qu'on écrive le Tehilim de Lamnatzeach en mode Menorah avec tous les mots au-dessus, en dessous, les flèches, les machins, eh bien, tout ça, c'est l'enseignement de Baal Shemen Sasson. Shemen Sasson, c'est le titre d'une série de livres extraordinaires dans l'enseignement de la Kabbalah qui nous viennent de Rabbi Sasson Bachar Moshe. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Dans tous les sidourim sfarad, on le retrouve plus ou moins. Et on retrouve des fois dans des posters dans les synagogues et tout ce que vous voulez. Rabbi Sasson Bachar Moshe. Reb Sasson, donc né en Bosnie, finalement il ira à Jérusalem, finalement il vivra en Israël, finalement il deviendra Rosh Yeshivat HaMekoubalim Bethel. Ah ben c'est pas rien. Rosh Yeshivat HaMekoubalim, c'est pas n'importe quoi. Il est en droite ligne, un descendant de Rabbi Yosef Karo. La Torah de la Kabbalah est inhérente à sa famille, car je rappelle que Rabbi Yosef Karo, au-delà d'être le Possek Halakha qu'on connaît, était aussi Migdolé Gdolé Amekoubalim. Et c'est en 1882, à l'âge de 57 ans, que Reb Sasson Bachar Moshe devient le Rosh Yeshivat Amekoubalim Bethel. Sa Torah, qu'on retrouve donc dans les livres, comme j'ai dit, Shemen Sasson, eh bien, ce sont des Pérouchim autour des Sifrei Ha'ari de Rabbi Chaim Vital. Alors là, on est complètement en plein dedans, hein. On est en plein dans la Kabbalah, en veux-tu, en voilà. Mais il va y avoir quelque chose de très particulier, c'est que le Shemen Sasson va s'efforcer de relier tous les enseignements du Hari, et donc de Rabbi Chaim Vital, aux Kavanot du Rachash, de Rabbi Shalom Sharabi. On a déjà parlé de lui. Alors pourquoi? Parce que pour lui, alors qu'il y a une différence entre les Kavanot à Rachash et Kavanot à Hari, eh bien, pour Rabbi Sasson, ce n'est que dans l'union des Kavanot, et c'est ce qu'on retrouve dans son Lamnat Sehar, mais on va pas l'étudier maintenant, l'union des Kavanot est la seule qui permet une véritable transmission de la Torah. Pourquoi? Si on a parlé tout à l'heure avec Rabbi Menachem Mendel de Kotzk de cette volonté de ne pas écrire, de transmettre Rav, élève, machin, lui, il n'est pas contre l'écriture, Rabbi Sasson Moshe. Il n'y a pas de problème, il a écrit plein de livres. Mais il y a quand même, oui, un problème, c'est lorsqu'il y a des écoles de pensée qui sont trop différentes les unes des autres. Et donc, il dit, moi, je ne suis pas contre écrire, mais il faut que chaque rabbin qui écrit ait pour objectif de réconcilier les rabbins qui lui ont précédé. Et ça, les amis, c'est un enseignement fantastique. Ça, c'est un enseignement fabuleux. Parce que si on admet, et c'est un postulat de départ, on n'est pas obligé de l'admettre, mais nous on l'admet, si on admet que tous les rabbanim qui s'appellent rabbins dans la tradition juive, qui ont leur place dans la tradition d'Israël, sont donc une façon de dévoiler la Torah d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il n'est pas possible que ces dix rabbins restent éternellement en porte-à-faux. Il faut réunir l'enseignement des rabbinim, c'est-à-dire les réconcilier, trouver comment réconcilier tout le monde. Son travail à lui, il va le faire entre le Rachash et le Hari. Et tu ne peux pas réconcilier tous les rabbins en 5 minutes. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail, c'est une vraie idéologie, et c'est l'idéologie de Rabbi Sasson Bachar Moshe. Les amis, cette idéologie de réunir les enseignements, on le retrouvera plus tard. Parce que je ne vais pas vous mentir, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, lui, il l'a fait avec le Rachash et le Hari. Mais ce n'est pas comme si, après, il y a des rabbins qui ont dit, allez, on y va tous. Je prends deux rabbins, je les réconcilie. Le Rav Kook va essayer de faire ça un petit peu aussi. Lorsqu'il va à chaque fois essayer de réconcilier le Rambam et le Ramban. Mais réconcilier le Rambam et le Ramban, c'est réconcilier Torah Tanigle et Torah Tanistar. C'est peut-être ça, en fait, le plus grand travail. De réconcilier l'enseignement de la Kabbalah et l'enseignement de la Halakha. Ça, c'est fondamental. Parce que la dissonance qu'il y a entre Halakha et Kabbalah, eh bien, va être justement, les amis, quelle transition incroyable, va être justement l'apanage du troisième personnage que nous allons évoquer maintenant. Un troisième personnage rabotaille qui nous vient de loin. Ça veut dire quoi, qui nous vient de loin? Qui nous vient de la lointaine, là-bas, de la lointaine Bagdad. Ah ouais! Comment ça, la lanterne de Bagdad? On va parler de qui? Si vous connaissez un grand juif de Bagdad et qu'on parle de Bagdad, Babel et Kabbalah, vous allez me dire tout de suite, évidemment. Bah oui, évidemment. Ahaham, Yosef, Chaim, Haben Yishrael. Mais on va pas parler de lui. C'est pas à peine de noter, on va pas parler de lui. Parce qu'on en parlera soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, parce que c'est encore trop tôt. Il est encore trop jeune à ce moment-là. Mais on va parler de son maître, de celui qui a fait le Ben Yishrael, de celui qui est un des piliers de l'enseignement de la Kabbalah, qui s'appelle Aréhem. Aréhem, c'est les initiales de son nom, c'est comme ça qu'on l'appelle. Aréhem Rabbi Eliyahu Mani. Rabbi Eliyahu Mani Rabotai, Aréhem. Alors là, je ne sais pas quoi vous dire. Bah, je pourrais vous dire qu'il est le Talmid, l'élève de Rabbi Abdallah Sommer. Et déjà en soi, on a déjà tout dit quand on a dit ça, dans la Mekoubalim. Je pourrais vous dire qu'il est le Rav du Ben Yishraï, donc déjà en ça, on a tout dit. Mais je vais surtout vous dire que Meni, ce nom de famille qui est un petit peu bizarre, sont les initiales de Migeza Nin Yishai. En d'autres termes, ça veut dire je fais partie de la famille du roi David. Rabbi Eliyahu Meni est un descendant direct de David Amer. Et il va très jeune rentrer dans l'univers de la Kabbalah et devenir le patron. Bon, le patron, pas de problème. Et son enseignement et son étude de la Kabbalah va tout simplement, et d'une simplicité énorme, le conduire en Eretz Israël. Parce que lorsque tu étudies la Kabbalah, tu comprends qu'il faut venir ici. Tu n'as pas le choix. Donc, Rabbi Yaoumani part en Eretz Israël. Ouh là là, ça va pas être facile. La communauté en Irak ne veut pas le laisser partir, refuse de le laisser partir. Et il faudra l'intervention de son jeune élève qui commence à prendre du charisme, le fameux Ben Yishraï, Chacham Yosef Chaim, pour convaincre la communauté de le laisser partir. Que si on veut pouvoir profiter d'un grand Rabbi Eliyahu Mani, on a besoin de le laisser partir en Eretz Israël. Il part en Eretz Israël, il sera un temps à Yerushalayim, mais il y a un truc qui le saoule à Jérusalem, c'est que tout le monde connaît sa valeur. Et vu que tout le monde connaît sa valeur, ça l'énerve, parce que tous les jours, on vient lui demander de devenir le grand rabbin de Jérusalem. Aham Bashi. Et il veut pas. Et il veut pas du kavod, il veut pas d'une misra. Il veut qu'on le laisse tranquille, il veut pouvoir étudier, enseigner, laissez-moi tranquille. Je ne veux pas d'un statut. Et c'est la raison pour laquelle il décide de partir de Jérusalem et il va à Hébron. Moins grand que Jérusalem, moins au centre de tout que Jérusalem, mais c'est une peine perdue, les copains. Parce que Malahasot a boréach me a kavod rodef oto. Celui qui fuit le kavod le poursuit. Et à Hevron, tout le monde le saoule, ne le lâche pas pour qu'il devienne le grand rabbin de Hevron et il va le devenir. Il va devenir le rav de Hevron, en Malahasot. Il est enterré d'ailleurs aujourd'hui dans le vieux cimetière juif de Hevron. C'est un endroit qu'on ne va pas souvent visiter. Et c'est vraiment dommage. Quand on va à Hebron, évidemment, on va voir papy et mamie, ça c'est pas choute, c'est une évidence. Mais dans le vieux cimetière juif de Hebron, on a des géants de parmi les géants. On avait parlé d'un des élèves du Harizal, Rabbi Eliyahu Dividas, qui est le Reshit Chochma, qui est enterré là-bas, Rabbi Eliyahu Meni, Bekitsour, il y a de quoi faire. Mais Hebron ne va pas le détacher de Jérusalem. Il reste en contact avec Jérusalem, il a commencé à, déjà quand il était là-bas, à prendre le numéro, si on parlait en langage 21e siècle, il a pris le WhatsApp, le 06, d'un monsieur. Et il est en contact avec lui Et je ne vais pas te dire que c'est lui qui va lui forcer la main, mais c'est lui qui va lui forcer la main. Il a des dizaines de lettres de correspondance avec un certain, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Moïse Montefiore. Ah! Rabbi Eliyahu Meni est celui qui va réussir à convaincre Monsieur le ministre Moshe Montefiore de venir mettre son argent dans Jérusalem. Histoire que vous compreniez un petit peu qui est Rabbi Eliyahu Meni. Vite fait, vite fait. Alors une Torah, évidemment, là aussi, qui ne va pas rester dans l'oubli, qui va être mise par écrit. Et je ne citerai que le livre, peut-être le plus connu. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Pas se tromper. Tana de Ve'eliyahu. Alors non, il ne s'agit pas du Tana de Ve'eliyahu, du livre des Tanaïm, qui raconte les histoires de Eliyahu Hanavi. Du tout. Il s'agit de Sefer HaMinagim shel Keilat Kodesh Hebron. Si tu veux savoir ce que sont les minagim d'une des plus vieilles communautés juives du monde, Tana de Ve'eliyahu. Ça d'air? Mais il a écrit également le livre Siach Yitzhak. Siach Yitzhak. Le livre Maaseh Eliyahu. Le livre Meir Eliyahu. Le livre Kisseh Eliyahu. Karnot Tzadik. Zichronot Eliyahu. Que des livres qui viennent essayer de réunir les différentes Torahs. C'est des livres de Halakha dans lesquels il met la Kabbalah. Et ça, c'est un chidouche. C'est un chidouche énorme. Pourquoi? Parce qu'on a dit, et redit, et re-redit, que dans toute l'histoire, les plus grands Mekoubalim étaient également les plus grands Poskim. Ça, on l'a expliqué, le Ramban et d'autres. Mais, il y a toujours une séparation dans la psika entre la Halakha et la Kabbalah. Et on en a parlé la semaine dernière avec la Torah du Maghreb, qu'il y avait toujours cette séparation entre Psikat HaHalakha vers la Kabbalah. Eh bien, Rabbi Eliyahu Meni est le premier qui va faire rentrer la Kabbalah dans la Psikat HaHalakha. Son élève, on en parlera quand on parlera du Ben Yishraï, eh bien, va prendre ça et va le mettre à son paroxysme, puisque chez le Ben Yishraï, on le redira, c'est que ça. C'est-à-dire, toutes ces halakhot, c'est Alpi HaKabbalah. Et on verra ce que ça veut dire pour une communauté qui doit le suivre. Bekitsour, Rabbi Eliyahu Meni, est le pilier du judaïsme de Hebron et d'Eretz Israël. Les amis, on a voyagé depuis la Bosnie, Eretz Israël, la Pologne. Il va falloir qu'on arrive à Djerba. Ah, les Tunisiens. Eh oui. Eh oui. Comment est-ce qu'on peut parler de Torah Takabala au XIXe siècle si on ne parle pas de celui qui est l'élève? L'élève, oui, messieurs, dames, de Rabbi Sasson. On a parlé de Rabbi Sasson. Agave, je ne vous ai pas dit, mais Reb Sasson Moshe Bachar, il a un surnom. Personne ne l'appelle Rabbi Sasson Moshe. Tout le monde l'appelle par sur son nom, et on va voir si vous arrivez à comprendre son surnom. Il s'appelle. Vous êtes prêts? Rabbi Sasson Moshe Bachar, dans un autre langage, s'appelle Apprisiado. Tout le monde l'appelle Apprisiado. C'est quelle langue? C'est en ladino. Et ça veut dire quoi, Apprisiado? Eh oui, le précieux. Hayakar. Hayakar. Et donc, la dernière personne que nous voulons évoquer aujourd'hui, eh bien, c'est l'élève du Yakar. Il s'appelle Rabbi Moshe Idan. Rabbi Moshe Idan s'appelle, dans la bouche de tous, Rosh HaMekoubalim dans tout le Maghreb. Rosh HaMekoubalim. C'est le patron. Il va grandir à Djerba, mais c'est finalement dans la ville de Gabas qu'il va être le Dayan, qu'il va grandir, qu'il va être le plus connu. Mais il reçoit et il il vit de toute la tradition de Yehudé Djerba, Torah Takabala chez Yehudé Djerba. Rabbi Moshe Idan va énormément écrire. Énormément écrire. Tous ses livres sont des Perushim al Pi Hasod, des Perushim fantastiques. Par exemple, peut-être le livre le plus connu de Rabbi Moshe Idan s'appelle Torat Moshe. Vous comprenez pourquoi il y a plein de gens qui n'aiment pas Rabbi Moshe Idan? Parce qu'il a appelé son livre Torat Moshe. Quoi? Pour qui tu te prends? Tu te prends pour Moshe Rabbeinu? Nanana! Ce livre Torat Moshe, il est magnifique. Ce sont des Chidushim sur le Tanakh, Alpi Asod. Alpi Akabala. C'est-à-dire, tu étudies le Tanakh avec la Kabbalah. Qui va faire ça aussi? Le Ben Ishraïm. Ça, on en reparlera après. Bekitsour, il écrit le livre Tiferet Moshe. Tiferet Moshe, qui va reprendre tous les livres de la Kabbalah qui ont été écrits jusqu'à lui, et il les commente. Et il en fait un codex qui s'appelle Tiferet Moshe. Il y a un livre qui s'appelle Chag HaPessah. Facile à retenir. C'est le commentaire Alpi HaKabbalah de la Haggadah. Pas mal. Bon, je conseille à personne de prendre ce commentaire-là et de l'expliquer pendant le soir de Pessah. Déjà que les gens, ils ont faim et qu'ils sont fatigués, commence pas à nous faire une explication Alpi HaKabbalah de la Haggadah. Et il a un livre magnifique, magnifique, parce que c'est tellement fin. Ah oui, les Mekoubalim, c'est des gens qui sont fins. En malasot. C'est des gens qui ont une chorma. C'est fin. Je sais pas comment on pourrait traduire autrement. Qui s'appelle Sha'ashua Mitzvah. Sha'ashua Mitzvah, c'est expliquer la liste des mitzvot selon le Rambam, Alpi HaKabbalah, en faisant des rimes. Ah, c'est fantastique. Bon, évidemment, tu ne comprends pas la moitié du livre, hein, mais il n'y a pas de problème. Mais ce que tu arrives à comprendre, c'est génial. C'est magnifique. C'est le mec qui l'a dit, je vais prendre les mitzvot et je vais expliquer Alpi HaKabbalah, mais en rime. Voilà, pourquoi pas. On a parlé déjà de la Shira comme étant l'un des vecteurs de la transmission de la Kabbalah. C'est-à-dire, eh ben, on est en plein dedans, Rabotai. La moitié du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle est une période où la Chochma devient centrale dans le monde. Les années 1850-60, au-delà d'être la révolution industrielle qui commence en 1840, la révolution industrielle, c'est pas seulement que maintenant il y a des machines qui font le travail à la place des hommes. C'est qu'on a réussi à arriver à un niveau technologique qui nous permet de construire ces machines. C'est-à-dire que la sagesse de l'humanité a grandi énormément. C'est pas pour rien que le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov, parlaient de l'année de Tor, l'année Tavrech de 1840, comme étant l'année charnière où Yafutsu Mayonantera, où la sagesse commence à exploser dans le monde. Et donc, eh bien, les chachamim de la Torah, et particulièrement de la Kabbalah de cette époque-là, vont être obligés de eux aussi connaître les nouvelles sagesses du monde, les nouvelles réflexions, les nouvelles idées philosophiques. On ne pourra plus faire sans pour essayer de bien comprendre les enjeux de la Torah Takabbalah à la veille de la Géoula. Et ça sera, et je spoil de manière éhontée, ça sera hein, le grand travail. Le grand travail effectué par le personnage qui va certainement nous demander tout le cours de la semaine prochaine, qui est un homme incroyable et quelqu'un qui connaissait par cœur toute la philosophie de son époque et qui a réussi à nous expliquer ce qu'était le judaïsme, et je vais pas aller, je pèse mes mots, qui nous a expliqué ce qu'était le judaïsme, et c'est un rabbin qui est extrêmement méconnu. Et la semaine prochaine, nous allons pouvoir rentrer dans sa Torah. Je parle d'un monsieur, et on n'a pas beaucoup parlé des Chachamim d'Italie, je parle de Rabbi Eliyahu Ben Amozeg, qui sera notre grande star la semaine prochaine. Il est 51. Vous pouvez rallumer vos micros. La parole est à vous.
Ça va? Allô?
Est-ce que vous avez des questions?
Gabès,
Ah.
Gabas, c'est pas Gabas, c'est Gabès.
Gabès, Gabès,
Ne pas
Slicha,
tromper
Slicha,
pour
Slicha,
les
Slicha,
Tunisiens.
Slicha, Mechila, Mechila, Bakasha, ne me
Une pauvre
foudroyez pas.
Tunisienne,
Je t'ai demandé, toi, de prononcer le mot Pierre Setna,
moi.
hein? Franchement.
Mais Gabès, c'est ça.
Arabe, c'est le
Bon,
projet arabe.
ça y est, t'es parti pour ta Hanoun.
Et voilà, ça y est.
Arabe, je peux vous poser une question?
Mais bien sûr.
Vous avez dit, je ne me rappelle pas de qui, vous parliez de réunir les Torahs que la Kabbalah, qu'on ne peut pas contredire les rabbins précédents. Donc, on
Je dis
peut
pas,
essayer.
non, j'ai pas dit qu'on ne pouvait pas contredire. J'ai dit que si on admet qu'ils sont tous Torah, ben, il faut essayer de les réunir, d'essayer de voir où est-ce qu'on peut reconnecter.
Mais toute la Gemara et tout ce qu'on nous enseigne, ce n'est que machloket, ce n'est que contradiction entre les rabbins. Alors, comment peut-on penser qu'on puisse arriver à une pensée générale?
Ah, j'ai y a fait. Très bonne question. À aucun moment, j'ai dit qu'il fallait arriver à une pensée unique. J'ai dit qu'il fallait réunir les idées. Pourquoi? Parce que lorsque Rabbi Yochanan est en machloket inhérente et incessante avec Resh Lakish, ça ne veut pas dire que Rabbi Yochanan a raison et Resh Lakish a tort. Rabbi Yochanan amène une version de la Torah qui est Torah. Et Resh Lakish amène une autre vision de la Torah qui est Torah. La preuve en est, c'est que lorsque Resh Lakish meurt, eh bien on donnera à Rabbi Yochanan une autre chavruta qui s'appelle Rabbi Yonatan. Rabbi Elazar, c'est ça, Rabbi Elazar. Mais le problème, c'est que Rabbi Elazar, il était d'accord avec Rabbi Yochanan sur tout. Et à chaque fois que Rabbi Yochanan disait quelque chose, Rabbi Elazar donnait des arguments pour confirmer ce que disait Rabbi Yochanan, à tel point que Rabbi Yochanan en est mort. Parce qu'il a dit, mais tu ne me sers à rien. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui dise que j'ai raison. J'ai besoin de quelqu'un qui me dise qu'il pense autrement. Parce que la Torah, elle sort de et Moshe et Aaron. Ça ne veut pas dire que la machloket n'est pas permise. Au contraire, elle est bénéfique parce que ce que moi j'ai compris et ce que toi tu as compris, Yesh lo makom bakodesh. Et donc celui qui veut réunir, il ne dit pas, c'est en fait mon idée qui a raison. C'est de dire, voilà ce que là, il y a à se rattacher. Et voilà ce que là, il y a à se rattacher. Même les avis qui n'ont pas été retenus au niveau de la halakha, on doit les étudier quand même, parce qu'ils nous révèlent quelque chose dans, bah, dans mon rapport à Dieu. C'est pour ça qu'on continue à étudier les enseignements de Beit Shammai, bien que c'est Beit Hillel, la halakha. D'accord? Donc la machloket ne veut pas du tout dire que c'est diamétralement opposé. C'est deux visions différentes de la Torah, mais les deux sont fondamentales. Ou les trois, ou les quatre, ou les cinq.
Mais
Merci. Tu pourrais
sur
dire
ce
quelque
sujet-là,
chose?
la marloquette, le Rambam, il dit clairement quand même que c'est pas les Khatrila. C'est-à-dire que ça vient de la descente, on va dire, des générations et de notre compréhension, que de plus en plus de marloquettes.
Mais encore une fois, je le Rambam nous dit que depuis la destruction, enfin, la séparation en Mamlechet Israël et Mamlechet Yehuda, il n'y a eu aucune halakha qui a été acceptée sans Mahloket. Parce qu'il y a la scission au sein même de l'identité d'Israël. Ceci étant, même avant cela, j'ai amené l'exemple de Moshe et Aaron, c'est nécessaire qu'il y ait et Moshe et Aaron. Donc la machloket est fondamentalement importante pour arriver à l'unité. Parce que moi tout seul, je ne peux pas y arriver. J'ai besoin de quelqu'un qui ne pense pas comme moi pour m'aider à aller là où moi je ne peux pas aller. Là où moi je ne sais pas aller. Donc c'est fondamental. Il y a Moshe et il y a Aaron. Tu as raison que Yerida Tadorot a fait que des fois, on se dispute sur des choses qu'en fait, on n'aurait même pas à se disputer. C'est vrai. Des fois, il y a des marlokotes qui n'ont pas lieu d'être. Mais l'idée d'avoir plusieurs idéaux différents, c'est très important pour arriver au Emet.
Mais à la création du monde, il y avait une marloquette entre les eaux, je crois, et alors Dieu ne dit pas que Ayatov mort. Et dès le départ, c'était un effet négatif.
La marloquette de Rakia Shebetoch HaMaim, entre Maim Elionim et Maim Tartonim, c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure entre le Emet et l'unité des valeurs. Nachon, vous avez raison, dans les mondes des cieux, tout est un. C'est Nachon. Aval Baolam Hazeh, yesh Machloket.
Je pourrais poser une question.
Que c'est nécessaire, Baolam Hazeh.
Je pourrais poser une question supplémentaire.
Oui, madame.
Avec le rabbi Mikotz, on a introduit un élément qui n'existait pas trop auparavant, j'ai l'impression, du monde futur. On parle beaucoup du monde futur après la Torah, ça doit être beaucoup plus tard. C'est tout nouveau là, ou c'était dans les précédents?
Non, non, on parle aussi du monde futur, bien sûr, dans la Mishnah, on en parle déjà, hein, les élèves de Antigonos, Ishtocho, non, on en parle déjà. Ce que le Rabbi de Kotz qui vient dire, c'est qu'il y a une réalité qui n'est pas encore ici, mais qui est une réalité d'unité totale. Et il veut s'attacher à cela.
Seulement dans le monde futur, parce que j'ai noté ici que vous avez dit que ça a l'impression que Emmet n'est valable que dans le monde futur.
Emmet tout seul. Emmet tout seul, Zerak Baolam Haba.
Et ce monde futur, il est quoi?
Ce monde futur, il est Yom Sheou. C'est un monde où il n'y a pas, si vous voulez, d'écran entre le créateur et la créature. Ou bien un dialogue entre le créateur et la créature.
Alors, quel est le rapport entre le rabbi de Kotz et Gour? Il est le fondateur de Gour?
Il est le rabbi de Gour, le premier rabbi de Gour, va être un des élèves du Kotzker.
Merci.
On a le temps pour une dernière question.
J'ai entendu que le rabbi de Kotz ne priait plus en minyan et qu'il s'isolait pour la prière.
Tout à fait. C'est tout à fait exact.
Ce qui est contre la halakha, en fait.
C'est pas totalement exact.
Non, ok.
C'est pas totalement exact. Pourquoi? Parce que... comment je vais formuler ça? La halakha ne dit pas textuellement que tu es obligé de prier en minyan. La halakha, elle va te dire que c'est très bien de prier en minyan, que c'est mieux de prier en minyan, que lorsque tu pries en minyan, ta tefila, elle est directement entendue, que lorsque tu pries en minyan, tu te rattaches à la kdoucha du peuple juif, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il faut prier en minyan. Mais, il y a des cas où on va te dire prie tout seul. Par exemple, si tu as l'habitude de prier en minyan au Netz, ben Netz Achama, et que là, tu ne peux pas prier en minyan, parce que là où tu es, il n'y a pas de minyan, ben Netz Achama, mais il y a un minyan plus tard, est-ce qu'il vaut mieux que toi, tu pries ben Netz Achama tout seul? Ben oui, il vaut mieux que tu pries ben Netz Achama tout seul. Donc, c'est pas anti-halakha de dire que je ne prie pas avec le minyan. Mais, je répète, il vaut mieux prier en minyan.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous avez dit sur le Rakia Betoch HaMaim et l'Emet et l'unité des valeurs? Je n'ai pas très bien compris.
C'est une très très bonne question, mais je ne pourrais pas le faire parce qu'il est 10h00.
Aïe.
Et que le Rav Cherki est certainement déjà arrivé. Et je ne tenterai même pas le destin.
Bon, la prochaine fois.
Voilà. Non, par contre, vous pouvez la garder la question et on commencera le cours la semaine prochaine si vous voulez avec.
Merci.
Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est qui gère la transition.
Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.